Universe.
De l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, Sporama, ce sera avec Bagasikoura. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Nigeria, des combattants du groupe islamiste Boko Haram ont tué et décapité 7 personnes dans le nord-est du pays. C'est ce que rapporte selon des témoins cités par l'AFP. L'attaque s'est déroulée à Ngambou dans l'état de Bordeaux. Dans la dernière vidéo du groupe islamiste, un homme présenté comme un pilote de l'armée de l'air nigériane était décapité. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a temporairement transféré le pouvoir au vice-président William Ruto. Il a annoncé qu'il va répondre à la convocation de la CPI à La Haye, Nathalie Barge.
Uhuru Kenyatta fait face à 5 chefs d'accusation pour organisation présumée de la violence ethnique meurtrière qui avait suivi l'élection présidentielle de 2007 au Kenya. Plus de 1100 personnes ont été tuées et des centaines de milliers déplacées.
I urge my fellow citizens to accept and to understand my decision. I also urge our African brothers and sisters to stand with Kenya.
S'exprimant devant le Parlement ce lundi à Nairobi, le président kényan a déclaré qu'il respecterait la convocation du tribunal à comparaître mardi et mercredi pour une séance sur son statut. Pendant qu'il sera à La Haye, le vice-président kényan William Ruto occupera la présidence par intérim. Monsieur Ruto est lui-même cité à la CPI. Son procès a débuté l'an dernier. Il a plaidé non coupable. Le procès de Monsieur Kenyatta a été reporté plusieurs fois. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, disait alors que le gouvernement de Nairobi ne fournissait pas les documents demandés par son bureau.
En République centrafricaine, la Coordination nationale des anti-balaka hausse le ton. Elle a réclamé la démission dans 48 heures de la présidente de la transition, Catherine Samba. Signalons que dans l'est du Cameroun, selon l'AFP, 3 membres d'un groupe armé centrafricain ont été tués lors d'un accrochage avec des militaires camerounais à la frontière avec la Centrafrique. Au Burundi, des rebelles ont revendiqué une nouvelle attaque contre l'armée près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Ils affirment avoir tué 6 soldats, bilan démenti par les militaires burundais qui affirment au contraire avoir tué un assaillant hier dimanche. Les rebelles en question font partie d'une aile dissidente des Forces nationales de libération, les FNL, S-Rébellion Hutu, devenue partie légale d'opposition.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Retour à l'apaisement à Hong Kong après une semaine de perturbations et de revendications pro-démocratie. Les fonctionnaires ont pu reprendre le travail aujourd'hui. Jacques Aristide.
Dans le quartier d'Admiralty, où se trouve le siège du gouvernement, les protestataires n'empêchaient plus ce lundi les agents de l'État d'accéder au complexe, même si des barricades bloquaient encore l'entrée. Ce fonctionnaire, Tim Fung, dit respecter les droits des manifestants d'exprimer leur colère, mais ajoute-t-il, ils doivent également respecter les droits des employés qui veulent se remettre au travail. De dizaines de milliers la semaine dernière, les protestataires n'étaient plus que quelques centaines dans la rue. Les autorités leur avaient sommé de quitter les lieux ce lundi afin de permettre la réouverture des bureaux, des écoles et des commerces. Ce manifestant, Oscar Leung, s'excuse auprès du public et souhaite une solution pacifique à la crise. Les leaders de la contestation ont affirmé se préparer à d'éventuels pourparlers avec Carrie Lam, la numéro 2 du gouvernement de Hong Kong.
En Syrie, les combats pour le contrôle de la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie, se poursuivent. Les milices kurdes ont ralenti l'élan des djihadistes de l'État islamique ce week-end, tuant au moins 16 militants. Mais 11 kurdes sont également morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pendant ce temps, en Irak, les frappes de la coalition ont fait au moins 25 morts dans les rangs des islamistes à Zouma, à environ 70 km au nord-ouest de Mossoul. L'OTAN se dit préoccupée par les multiples violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine qu'elle attribue indirectement aux séparatistes pro-russes. Selon le secrétaire général Jens Stoltenberg, il est important pour la Russie d'user de toute son influence pour que les séparatistes respectent la trêve. Au moins une personne est morte aujourd'hui à Donetsk lors d'un bombardement. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant à Sporama et c'est avec Bagasikoura.
Football, 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 football. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama comme tous les lundis soirs dans notre émission. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sporama. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct composés. Le 001, l'indicatif donc, 202-619-3140. Je répète, 001-202-619-3140. Ce soir, on va parler beaucoup de football avec, bien sûr, nos consultants sur le terrain en Afrique. D'abord, Jules Valentin Gouet en ligne de Libreville. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Bagassi. Bonsoir à tous.
Et nous avons, bien sûr, l'incontournable Salif Kabore à Ouagadougou. Bonsoir, Salif.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à toutes et à tous, c'est très heureux de vous accueillir ici à Ouagadougou.
Et enfin, nous avons Élisée Mpatine à Boïkon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Bagassi Boura et bienvenue à Boïkon au Bénin.
Voilà, et donc comme je disais, beaucoup de football ce soir avec notamment les équipes africaines qui sont en piste pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN. Et dès ce vendredi, les pharaons d'Égypte, bien mal en point, se rendront à Gaborone pour affronter le Botswana. Jules, on le dit souvent, les grandes équipes ne meurent jamais, mais en ce moment, l'Égypte n'est pas au mieux de sa forme.
Oui, l'Égypte est même au bord de l'élimination et doit chercher sa rédemption au Botswana. Un Botswana qui est très difficile à jouer, on a pu le constater. Et la première confrontation entre ces deux équipes sera déterminante, mais seules deux victoires successives peuvent relancer réellement les pharaons.
Et il faut dire que l'Égypte a été d'abord battue par le Sénégal 2-0. Et le Sénégal donc qui affronte la Tunisie au stade Léopold Sédar Senghor. Quelles peuvent être les chances des Sénégalais, Salif?
Il faut dire quand même que dans le groupe, les Sénégalais, pour l'instant, en tout cas, n'ont pas perdu espoir de se qualifier pour Maroc 2015. C'est une équipe sénégalaise, donc même si vous voulez, en pleine reconstruction ou si vous voulez, en deux termes, en pleine confiance. Après, donc, vous voyez, d'avoir disputé les résultats de la Coupe du Monde difficilement, je crois que les Sénégalais ont repris confiance en ce moment. Et vous voyez que dans ce groupe-là même, ils arrivent à titiller la formation égyptienne qui est vraiment au bas donc, de l'échelle actuellement. Donc je crois que les Sénégalais sont venus dans la course pour les éliminatoires. Ils peuvent faire attention, attaquant surtout, pourquoi pas aussi à l'extérieur.
Et il faut dire aussi, Élisée, que le Sénégal est d'autant plus en confiance qu'il joue à domicile au stade Léopold Sédar Senghor, parce que il faut se le rappeler, ce stade avait été suspendu pendant plus d'un an.
Oui, c'est un réel plaisir de rejouer encore sur ce stade. La preuve, la nette victoire sans bavure de 2-0 contre les Pharaons lors de la première journée. Ouais. Et la confiance est venue de ce second succès enregistré du côté de Gaborone. C'est-à-dire que les Sénégalais sont totalement en confiance et attention, les Tunisiens doivent se méfier de cette équipe sénégalaise, mais tout va se jouer déjà dans cette double confrontation puisque là, on se rappelle que le premier sera qualifié d'office tout comme le second dans ce groupe.
Et Salif, je reviens à toi avec ce match Angola-Lesotho parce que je crois que vous avez suivi de près ces deux équipes. Comment vous voyez cette rencontre?
Ça va être vraiment la rencontre de la relance pour les deux équipes, si je peux le dire ainsi. Vous savez, lors de la première journée, le Lesotho avait été battu donc par le Burkina.
2-0.
Donc face au Burkina Faso à Ouagadougou. Et les Burkinabés qui s'en sortent en Angola face au Palenka, 3-0. Et vous voyez que les Gabonais aussi sont allés tenir difficilement en échec la formation du Lesotho sur le port de Salassie. C'est pour dire que ça va être un match très, très en jeu dans la mesure où les deux équipes vont chercher véritablement à gagner, donc en tout cas la partie pour pouvoir donc se recoller un peu au grand morceau tel le Burkina Faso. Donc je crois que Lesotho Angola, c'est un match très difficile, mais je crois qu'avec un bon avantage pour l'équipe du Lesotho.
Garo perdant lors de cette rencontre entre l'Angola et le Lesotho. Et samedi, rappelons que l'Algérie, en tête de son groupe, se rend au Malawi. Jules, l'Algérie, quand même, semble bien partie. Depuis le Mondial, l'équipe est très en forme.
Oui, ça, c'est une équipe totalement en confiance et surtout
est bien constitué, qui se connaît, où les joueurs se connaissent très bien. Je crois qu'elle fait partie des 5 équipes qui ont confirmé leur ascension ces dernières années au niveau du football africain. Et franchement, l'Algérie, est, pour moi, est un qualifié presque assuré, et, étant donné que sa prestation sur le terrain et également le mental des joueurs qui a évolué ont fait très bonne impression.
Voilà, vous suivez Sporama sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Bagassi Koura, avec en ligne Salif Kabore à Ouagadougou, Jules Valentin Ngwe à Libreville au Gabon et Élisée Mpatine au Bénin, donc à Boïcon, bien sûr. Et on revient bien sûr sur l'équipe du Cameroun qui va tenter de confirmer donc sa démonstration de force face à la Côte d'Ivoire. Les Lions Indomptables affrontent à Yaoundé, la Sierra Leone, pour cause d'Ebola. Jules, comment vous voyez cette rencontre entre les Camerounais et l'équipe de Sierra Leone qui était allée mettre en difficulté les éléphants à Abidjan?
Oui, c'est un match piège pour les Camerounais qui sont souvent plus motivés face à des équipes qui présentent un pedigree plus impressionnant. Mais je crois que, étant donné les circonstances qui veulent qu'une double victoire camerounaise ou bien victoire et un nul de ce pays lui assurerait pratiquement la qualification. Et les Lions Indomptables, surtout ceux qui jouent actuellement et qui cherchent réellement à confirmer leur place dans le club, et je crois ne laisseront pas beaucoup de chance à la Sierra Leone.
Alors, Élisée, quelle chance vous donnez à la Sierra Leone alors?
Bon, est-ce que la Sierra Leone a une chance? La Sierra Leone doit jouer sans complexe, hein, parce que là, pour la double confrontation, j'allais dire, tout va se jouer à Yaoundé au Cameroun. Donc, les Camerounais ont une chance, hein, déjà, de se qualifier avant les deux prochaines journées, les deux dernières journées. Mais les Sierra Leoneais devront apprendre face aux Camerounais, puisque déjà, on remarque que sur les 20 joueurs sélectionnés, eh bien, 4 seulement évoluent à l'étranger. Donc, c'est dire que l'entraîneur, tous évoluent à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que l'entraîneur doit s'appuyer sur cet effectif-là pour pouvoir construire une équipe, pourquoi pas, pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2017. Sinon, la Sierra Leone n'a aucune chance face aux Camerounais qui vont évoluer à domicile.
Oui, Salif, on sent que les nouveaux changements qui sont intervenus à la tête, donc, au sein donc, de cette équipe des Lions Indomptables, leur portent beaucoup de chance, avec notamment des jeunes comme Vincent Aboubakar qui dirige l'attaque.
Oui, bien sûr, c'est une équipe qui crache du feu actuellement, cette formation camerounaise. On a même regretté pourquoi pas cette génération n'avait pas pris part donc aux compétitions lors de la Coupe du Monde, parce que c'est une équipe vraiment très bien soudée, une équipe qui se comprend, qui a une très bonne lecture donc du jeu. Et ça fait qu'actuellement, en Afrique, pour les éliminatoires, on pense même que les Camerounais peuvent revenir sur la plus haute marche du podium lors de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui pense que les Camerounais ne se qualifieront pas donc pour ces éliminatoires. C'est en tout cas l'une des équipes la mieux en forme actuellement sur le continent africain. Donc je crois qu'aujourd'hui, toute équipe qui rencontre le Cameroun doit avoir forcément des frissons. Donc je crois que Cameroun et puis Sierra Leone, il n'y a pas de match véritablement. Je crois que les Camerounais sont largement favoris.
Et à côté de chez vous, hein, Jules, à côté donc du Gabon, il y a la RDC qui reçoit donc les éléphants de Côte d'Ivoire qui devront forcément se relancer face aux léopards. Comment vous voyez cette rencontre?
Oui, mais c'est un duel impitoyable qui va opposer deux belles formations africaines. Et la RDC est d'abord revigorée par les performances de ses clubs au niveau de la Ligue des Champions et également de l'entraîneur du Vita Club qui encadre parfaitement l'équipe nationale.
Oui.
L'équipe est montée en puissance. Mais en face, il y a une équipe de Côte d'Ivoire qui a fait un gros faux pas au Cameroun et qui doit à tout le monde une revanche. Donc, je crois que cette double confrontation sera impitoyable et finalement, c'est celui qui aura le mental le plus solide qui va sûrement faire la différence.
Et il faut rappeler que Yaya Touré, qui donc joue en Angleterre, a marqué son premier but de la saison du côté du championnat anglais. C'est lui donc qui va diriger cette équipe ivoirienne. L'absence d'un certain Didier Drogba, est-ce que Élisée, son absence, est-ce que cette absence se fait un peu remarquer?
Bien évidemment, hein, puisque au niveau de l'attaque, on sent que cette équipe ivoirienne n'arrive plus à marquer. Déjà, face à la Stellarion, les Ivoiriens se sont imposés difficilement 2-1. Au Cameroun, l'attaque est restée, l'attaque n'a pas fait long feu devant cette défense camerounaise. Maintenant, face à la LDC, puisque c'est un match de tous les dangers, celui qui va perdre cette rencontre pourra peut-être dire adieu à la qualification, puisque le Cameroun a déjà la faveur d'affronter la Sierra Leone, puisque 6 points sont dans son sac, et si jamais les Camerounais arrivent à s'imposer lors de cette douce confrontation, ça veut dire que les Camerounais seront qualifiés. Maintenant, erreur à celui qui va perdre son match dans le duel entre la LDC et la Côte d'Ivoire. Donc, les Camerounais doivent revoir leur ligne d'attaque si, éventuellement, cette équipe doit battre la LDC deux fois pour se mettre en position, pourquoi pas, derrière le Cameroun.
Alors, Salif, il faut dire que les Ivoiriens doivent impérativement gagner si on se met du point de vue de l'entraîneur même, le successeur de Fabri Lamouchi. Donc, s'ils ne gagnent pas, comment est-ce que vous imaginez que le débat va se poser en termes de position pour ce nouveau sélectionneur? Est-ce qu'on va vouloir en trouver
c'est
un nouveau?
Bagatti, c'est vrai qu'en Afrique, quand on recrute nouvellement un entraîneur, on lui donne un objectif dans le long terme. Mais en réalité, il s'agit du court terme, parce que le recrutement de Renard, c'est juste pour qualifier la Côte d'Ivoire, donc à Maroc 2015. Donc je crois qu'aujourd'hui, une équipe comme les éléphants de Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à se qualifier pour ce mondial, mais je crois qu'il faut tout de suite situer les responsabilités. Je crois que c'est l'entraîneur qui va payer cash. Si les éléphants ne partent pas, en tout cas, en 2015 au Maroc, je suis sûr et certain que le contrat de Hervé Renard sera donc, je ne sais pas trop, mais en tout cas remis en cause, même si c'est à l'amiable. Donc je crois qu'aujourd'hui, au niveau des acteurs donc, du football ivoirien, ils ont véritablement intérêt à se ressouder, à parler beaucoup aux joueurs, à discuter en tout cas tous les nuages qu'il peut y avoir au sein de cette formation de Côte d'Ivoire, afin que les éléphants puissent aller effectivement au Maroc en 2015. Autrement dit, ce sera véritablement une catastrophe, parce que, comme les uns et les autres l'ont dit, on sent un peu l'ombre du Didier Drogba qui parle toujours sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un de véritablement qui a cette capacité-là pour cracher le feu dans la défense adverse. Donc c'est tout un problème pour cette formation ivoirienne. Je crois qu'il faut que Hervé Renard sorte le grand jeu pour que les éléphants se remettent en route.
Ou peut-être qu'il faudra juste laisser à Hervé Renard un certain temps pour reconstruire une nouvelle équipe des éléphants. Voilà, vous écoutez Sporama sur la Voix de l'Amérique, au micro Bagassi Koura. En ligne de Ouagadougou, nous avons Salif Kabore, Jules Valentin Ngwe à Libreville et Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Nous parlons donc de football et de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à Niamey. Le Ménin sera face à la Zambie. Le Togo tentera de conserver un mince espoir en se rendant en Ouganda. Élisée, un mot sur cette rencontre togolaise?
Oui, le Togo plutôt, n'a plus rien à perdre, puisque déjà pour ces deux premières sorties, ces épiaviers ont été battus respectivement par la Guinée et le Ghana. Maintenant, l'Ouganda qui a fait un très bon match face au Ghana, on se rappelle maintenant cette équipe va chercher de jouer tout son va-tout pour essayer de prendre les trois points. Maintenant, les Togolais avec la présence de Cheikh Adebayo qui va essayer quand même de pousser très loin cette équipe togolaise. Est-ce que cette formation aura la chance de faire bon résultat du côté de Kampala, puisque on sait que quand l'Ouganda joue à domicile, c'est souvent difficile. Donc les Togolais doivent nécessairement hausser le niveau de leur jeu s'ils veulent faire partie quand même des deux premières équipes qualifiées pour la phase finale qui aura lieu au Maroc en 2015.
Et nous avons aussi, après sa défaite en Algérie, le Mali qui doit impérativement aller l'emporter à 10 face à l'Éthiopie. Jules, un mot sur cette rencontre entre l'Éthiopie donc, et le Mali. Est-ce que les Harambee Stars sont toujours en forme comme on l'a vu la saison dernière?
Non, mais il faut dire que c'est d'abord une très bonne opposition de style. Les Éthiopiens qui nous présentent toujours leur football champagne, mais qui manquent de réalisme et aussi d'impact physique, auront fort à faire avec les grands gabarits maliens qui seront sûrement souverains dans le jeu aérien et dans les longues courses. Je crois que le Mali, qui aime très souvent jouer contre une équipe qui possède le ballon, et sera à l'aise dans cette confrontation. Moi, je donnerais plutôt le Mali, curieusement favori à l'extérieur.
Ah, ok, d'accord. Et enfin, nous avons aussi ensuite les Requins du Cap-Vert en déplacement à Maputo pour affronter le Mozambique. Et le Cap-Vert, tout le monde se rappelle, ils ont surpris tout le monde l'année dernière. Ils ont failli aller à la Coupe du Monde. Un mot sur cette équipe du Cap-Vert, Salif.
C'est une équipe capverdienne qui joue très bien au football. C'est une équipe qu'on a vue au cours de ces 3-4 dernières années bien en forme, qui constituait donc 90% de locaux, mais qui a un jeu vraiment, j'allais dire, qui pratique le football champagne, comme je venais de le dire tout à l'heure. Donc je crois que les capverdiens, c'est un pays en tout cas qu'il faut craindre. Ils ont des ambitions assez visibles, mais force est de reconnaître aujourd'hui que bon, l'expérience est en fait toujours au défaut, donc ça balbutie de temps en temps.
D'accord. Et Salif, on reste avec toi pour parler du choc du groupe C à Libreville entre le Gabon et le Burkina Faso. Je crois savoir qu'Alain Traoré ne sera pas de la partie.
Oui, Alain Traoré, donc, qui est blessé encore, je crois qu'il ne pourra pas donc prendre part à ce match très important de Libreville. Mais je crois que Jonathan Pitouapé et ses camarades sont conscients de cela. Je pense qu'ils se sont bien préparés. L'entraîneur Paul Put également en est conscient. Donc, il va falloir donc trouver la position magique pour pouvoir prendre ces 3 points également à Libreville. Vous savez aussi, le talent arrive à battre les Panthères du Gabon, ce sera quasiment la qualification. Ce sera quasiment la qualification parce que là, ils seront en terminant avec 9 points. Et je crois que ce sera très difficile pour le Gabon, l'Angola ou le Togo rejoindre rapidement le Burkina Faso. Donc je crois que c'est un match véritablement très très attendu par le Burkina Faso ici. Mais n'oublions pas aussi que les Gabonais veulent se replacer dans la course dans la mesure où, jusqu'à présent, après donc leur match contre l'Angola et aussi contre celui du Lesotho, en tout cas les Gabonais pour le moment ne sont pas très bien rassurés, donc ils ont besoin d'une victoire en tout cas pour se remettre en confiance, chose qui sera peut-être difficile pour eux, mais les Burkinabés savent également que la situation n'est pas à leur faveur à Libreville.
Alors Jules, vous avez entendu Salif, est-ce que vous avez comme envie de lui dire ne mettez pas la charrue avant les bœufs?
Oui, c'est possible en football, tout est possible, mais je vais presque dans le même sens que lui, dans la mesure où l'équipe du Burkina Faso est sans son meneur de jeu qui a souvent l'habitude de jouer un peu plus latéralement, va jouer à fond en profondeur. Et il a les éléments pour cela, les Bansés, et pour ne parler que de celui-là, seront face à une équipe gabonaise qui a remonté, disons que dans le classement face au Burkina Faso, donc il doit tenir le ballon et automatiquement s'exposer à des remontées rapides des joueurs burkinabés. Donc dans cette configuration-là, je crois que le Burkina Faso, curieusement, peut se retrouver à faire un choix tactique beaucoup plus utile que si son meneur de jeu était sur le terrain.
Alors, donc, il faut ajouter qu'une victoire est nécessaire pour les champions d'Afrique en titre à Khartoum contre le Soudan. Et la Guinée accueille à Casablanca pour cause d'Ebola le Ghana. Et les matchs retour auront lieu 3 jours plus tard.
Le Burkina Faso, pays du vélo, n'habitera pas le Tour du Faso cette année et pour la première fois depuis 1984. Sous cette décision du gouvernement burkinabé, la population est divisée.
Concernant cette annulation, je peux dire que...
Voilà, donc on a été un peu précipité dans le sujet. Il s'agit donc du sujet du reportage de Salif Kabore qui nous parle donc du report de l'édition 2014 du Tour cycliste du Faso. On écoute Salif Kabore.
Le Burkina Faso, pays du vélo, n'habitera pas le Tour du Faso cette année et pour la première fois depuis 1984. Sous cette décision du gouvernement burkinabé, la population est divisée.
Concernant cette annulation, je peux dire que bon, c'est une chose qui est bien. Vu l'avancée de l'Ebola, on peut dire pour prendre des mesures de précaution, bon, c'est une chose qui est parfaite, on peut le dire. Voilà, puis c'est comme il y a des cyclistes étrangers qui doivent venir aussi. Vu tout ça, on peut essayer de dire que l'annulation est parfaite. Oui, l'argent comparé à la santé, c'est pas la même chose.
Surtout qu'on est en train de tout faire pour que Ebola ne vienne pas au Burkina. C'est une bonne initiative quand même, c'est bien. L'argent par rapport à la santé est mieux je trouve. Oui, c'est une bonne idée.
Les pays riverains qui devaient participer sont susceptibles d'avoir l'Ebola. Bon, je trouve quand même que c'est une mesure un peu extrême parce que quand même il y a des moyens de contrôle et puis... Les participants des autres pays, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Il y a peut-être une dizaine par équipe. Je trouve quand même que c'est une mesure un peu extrême. Et ça fait que ça permet plutôt d'installer la psychose plutôt que de résoudre les problèmes, c'est mon point de vue.
Le ministre des Sports et de Loisirs s'est vu obligé de sortir devant les journalistes et pour le colonel Yacouba Ouédraogo, plusieurs événements sont annulés pour cause d'Ebola.
Nous avons reporté le CIAO, le CITO et aussi le Forum national des jeunes. Nous avons reporté ce tour du Faso, ce n'est pas de gaieté de cœur, parce que vous savez que cette maladie, un virus, Ebola, n'est pas une maladie comme les autres. Tout simplement, regardez dans les pays où cette maladie sévit. La vie est totalement arrêtée. Les hôtels sont vides, les marchés sont vides. Les avions ne veulent même plus atterrir dans ces pays. Je pense qu'il était quand même de notre devoir de faire en sorte que les dispositions qui ont été prises par le gouvernement, que ce ne soit pas à travers le sport que notre pays aussi va connaître un mal, un grand mal que tout le monde fuit. Et c'est pour cela effectivement que cette disposition a été prise. Nous pensons que les pertes que nous allons subir cette année avec le report de ce tour du Faso sont très minimes devant ce que nous allons prendre pour soigner, pour traiter ce mal.
Chaque année, le tour du Faso sillonne plus de 10 villes du pays à la rencontre de plusieurs millions de Burkinabés. C'est vrai que les pays les plus touchés par le virus, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, ne participent pas au tour du Faso, mais le directeur de la médecine sportive du Burkina pense que le problème n'est pas à ce niveau. Docteur Francis Lelio.
Le tour du Faso, ça ne se passe pas en une journée, c'est sur 10 jours. Et sur 10 jours, compte tenu de l'effort et des frottements qu'il y a, c'est plus facile de contacter la maladie à virus Ebola. Tout ceci fait comprendre qu'il ne faut pas prendre de risques par rapport à cette maladie. On s'est concerté effectivement avec le ministère de la Santé. On a discuté des possibilités de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Tout compte fait, on a jugé qu'il était vraiment prudent d'annuler le tour du Faso. Une décision qui est souveraine. Si tout le Burkina meurt ici, ce n'est pas l'ICI qui va venir dire quelque chose.
Ce sont au total 500 millions de francs CFA que le Burkina Faso perd dans l'annulation du Tour du Faso 2014. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Voilà donc le Tour du Faso qui n'aura pas lieu donc cette année. Jules, c'est une grosse déception. Hein?
Déception sportive, mais c'est aussi une décision sage. On sait que la Ebola allait semer le trouble dans la plupart des organisations de compétition et comme le ministre l'a dit ici sagement, il ne faut pas prendre courir de risque. Nos systèmes de santé sont très fragiles et la catastrophe est très vite arrivée.
Et est-ce qu'il faut avoir peur pour la CAN 2015?
La CAN 2015 se tient dans une zone beaucoup plus équipée et oui, qui est plus solide au niveau de l'encadrement sanitaire et de beaucoup d'autres choses aussi, des infrastructures et au niveau matériel. Et je crois une zone aussi qui est relativement éloignée de l'épicentre de la fièvre Ebola. Je crois qu'à ce niveau-là, peut-être, on pourra d'ici là aussi voir la fièvre Ebola, disons, baisser en vigueur, peut-être même disparaître en tant qu'épidémie, donc c'est jouable, je crois, pour la CAN.
Voilà, c'était donc tout pour Sporama. Merci, Jules. Et je salue aussi Salif Kabore à Ouagadougou, Burkina Faso, et Élisée Mpatine à Boïkon, au Bénin. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Voilà. Bonsoir.
Voilà, et c'était donc au micro Bagassi Koura. On se retrouve lundi prochain.